Bien, bonjour à tous. On est ensemble pendant une petite heure pour évoquer le thème du temps dans le dessin animé Les Mondes Engloutis. Donc Les Mondes Engloutis, je ne sais pas si vous connaissez tous cette série, je vais en quelques mots vous résumer l'intrigue. Donc, c'est une série de dessins animés réalisée entre 1984 et 1986, réalisée par Michel Gauthier sur des scénarios de Nina Vollmark. C'est une série importante dans l'histoire du dessin animé français parce qu'elle marque vraiment la sortie du dessin animé de l'ère artisanale en France. Avant Les Mondes Engloutis, il n'y avait jamais eu de grande série entièrement réalisée en France avec des équipes françaises. La situation de départ. Au cours d'une sortie spéléologique, Bob et sa sœur Rebecca font la connaissance d'Arcana, messagère d'Arcadia, une cité engloutie au centre de la Terre. Accompagnée par Bic et Bac, des pangolins, des créatures préhistoriques qui ont survécu, Arcana est venue chercher de l'aide à la surface de la Terre car le Chagma, le mystérieux soleil d'Arcadia, est malade et menace d'exploser. Guidés par Spartacus, le vagabond des strates, ils prennent tous place à bord de Chag-Chag, le vieux vaisseau arcadien, et commencent alors le périlleux voyage de retour vers Arcadia. Poursuivis sans relâche par les pirates du lac qui veulent capturer Arcana, les voyageurs croisent au cours de ce périple des civilisations disparues, des mondes inconnus, des univers oubliés. Les Mondes Engloutis se composent de 2 saisons de 26 épisodes chacune. Lors de la toute première diffusion, chaque épisode était lui-même scindé en 2 parties. Donc il s'agissait en fait de 2 fois 52 épisodes de 26 minutes. Soit 52 épisodes de 26 minutes, soit 104 épisodes de 13 minutes. Alors il s'agit d'une série, c'est-à-dire une succession de récits autonomes, et donc non pas un feuilleton qui serait un récit long découpé en épisodes. Donc dans chaque saison, après un premier épisode qui ouvre le récit cadre en présentant les personnages, les héros, les principaux décors, les opposants, on a une situation initiale perturbée qu'il va falloir rétablir, et chaque épisode constitue un récit complet. On a simplement à la fin de chaque saison un ou deux épisodes qui viennent résoudre la situation initiale, résoudre la crise et refermer le récit cadre. Dans leur ensemble, les épisodes de la série se plient rigoureusement au principe que je vais appeler le principe du statu quo, c'est-à-dire qu'aucun des personnages principaux n'apparaît ou ne disparaît en cours de série, aucune modification notable n'intervient dans les rapports entre personnages, dans les apparences physiques ou dans les lieux principaux dans lesquels ils évoluent. Si on étudie les scénarios, les listings de production, les dossiers de presse, on voit d'ailleurs que l'ordre de succession des épisodes qui a été prévu initialement à l'intérieur d'une même saison, a beaucoup varié avant d'être fixé par la première diffusion à l'écran. Lors de certaines rediffusions, lors de l'exploitation en cassette vidéo puis en DVD, l'ordre initial de diffusion n'a pas été respecté. Et même si on peut considérer que ça dénature l'œuvre télévisuelle originale, ça n'est pas vraiment préjudiciable à la compréhension de l'intrigue. Puisqu'à la fin, à l'intérieur de chaque saison, on trouve des épisodes clés qui apportent des éléments d'éclairage du récit cadre. Mais la plupart du temps, ces éléments ne sont pas réutilisés avant la conclusion de la série. C'est-à-dire que les personnages acquièrent de nouvelles informations dont on a l'impression que finalement, ils les oublient dans les épisodes suivants. Donc chaque épisode clé est en quelque sorte indépendant. Donc les cas de référence explicite dans un épisode à un élément qui s'est passé dans un épisode précédent sont rarissimes. En dehors de 2 épisodes un peu particuliers que je vais appeler des épisodes pot pourri qui reprennent des extraits complets d'épisodes passés. Mais là, il s'agit de retour en arrière et pas d'une avancée qui s'appuierait sur une expérience acquise. Alors cette structure de série avec des épisodes indépendants qui forment des histoires autonomes à l'intérieur d'un récit cadre, elle entraîne une forme de statisme. Ce qui a toutes sortes d'avantages en termes de production et en termes de réception pour le spectateur. Ça veut dire que le spectateur qui a raté 1 ou 2 épisodes, il n'est pas du tout exclu de la suite de l'histoire. Ça veut dire aussi que des scénaristes peuvent travailler en parallèle, en même temps, sur des épisodes différents, sans avoir besoin de savoir ce que font les autres. Tout ça Voilà, ça crée ce que j'ai appelé une forme de statisme, de surplace, qui, dans les monts engloutis, prend un sens. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que tout ça sous-tend une conception du temps des personnages, du temps du récit, qui fait partie de l'histoire racontée par les monts engloutis. Dans la Bible des monts engloutis, un fascicule d'une cinquantaine de pages, écrit par Nina Vollmark et qui, destiné aux co-scénaristes, présente les principaux personnages, la logique de la série, le sens à donner au récit. On trouve un paragraphe tout à fait intéressant que je vais vous lire et qui dit: de façon inexplicable, les héros reviennent toujours à une étendue d'eau souterraine, le lac, qui s'étend, et nos héros ne le sauront qu'à la toute fin de la série, tout autour de la Terre et les sépare du monde réel. Le début et la fin des épisodes seront ponctués par un retour sur le lac. Alors, cette idée du lac circulaire qui entoure, enfin, de lac circulaire souterrain qui entoure la Terre a été finalement assez peu exploitée, même si elle apparaît en filigrane dans certains épisodes, mais elle correspond vraiment à la structure de la série. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont les personnages sont contraints sans arrêt de revenir sur leurs pas, de faire du surplace, dans une série qui raconte pourtant un voyage. C'est une quête avec un but. On est censé arriver à une destination. Et plus généralement, je vais vous parler du thème du temps qui est lié à cette manière de faire du surplace dans l'espace. Et je vais essayer de vous montrer qu'il y a dans les monts engloutis une sorte de conception cyclique du temps historique et du temps narratif, ce qui me semble souligné par le fait qu'un épisode est consacré au thème de l'éternel retour emprunté à Nietzsche, dont je parlerai à la fin. Alors, une série de 26 épisodes dont la diffusion s'étale sur plusieurs mois, sur 6 mois, donc se doit, pour fonctionner, ça fait partie des contraintes de production, de prendre le spectateur par la main, de lui rappeler des choses qu'il aurait ratées, de rappeler des éléments, notamment du premier épisode, qu'on n'a pas forcément vu. C'est ce que fait Les Mondes Engloutis dans un jeu de redondance, de redites, de retour en arrière, qui s'intègre le plus souvent au scénario de façon assez naturelle. Mais le scénario des Mondes Engloutis fait vraiment de la répétition l'un de ses moteurs. J'ai évoqué tout à l'heure ce que j'appelais la règle du statu quo. C'est quelque chose qui est utilisé dans beaucoup de séries, pas uniquement dans le dessin animé, et qui a toutes sortes de vertus et de contraintes. Ça a des vertus en termes de coût. Ça veut dire que dans un dessin animé, on a la possibilité de piocher dans une banque de plans à tout moment. C'est-à-dire qu'on va avoir des plans qui montrent les personnages principaux en train de parler, en train de courir, en train de marcher, etc. Et ces plans-là, ils peuvent être réutilisés dans plusieurs épisodes, puisque ça va être les mêmes personnages pendant 26 épisodes, ils sont dans le même vaisseau. Donc cette banque qui est construite au début de la production, elle va permettre de faire des économies en termes de coûts. Plus généralement, il est également possible de réutiliser un plan qui a été animé spécifiquement pour un épisode, de le réutiliser dans des épisodes ultérieurs. Et je vous montrerai tout à l'heure que quelquefois, on peut même construire un épisode entier à partir d'éléments piochés dans des épisodes précédents. Alors, ça implique des contraintes aussi. Ça veut dire que les personnages doivent avoir une tenue vestimentaire qui va être la même tout au long de la série. Mais là encore, en termes de réduction des coûts pour le dessin, c'est tout à fait intéressant. Ça veut dire que la palette de couleurs de chaque personnage, elle est établie au départ et elle ne bouge plus. À partir du moment où on décide de réaliser une seconde saison à cette série, ça ajoute de nouveau des éléments enfin, des possibilités de réutilisation. Ça veut dire que les personnages, on va se faire plaisir en les faisant visiter de nouveau des lieux dans lesquels ils sont allés dans la première saison. Ils retrouvent des personnages qu'ils ont rencontrés. Le spectateur est content, éventuellement, parce que ça lui permet de connaître la suite d'une petite histoire qu'on lui a racontée un an avant. Et là encore, en termes de production, c'est intéressant. On n'a pas besoin de créer de toutes pièces des nouveaux personnages pour chaque épisode. Le fait même de tourner en rond, de ne pas avoir de chemin, ça fait partie des thèmes centraux du récit, en particulier dans la deuxième saison de la série, qui s'ouvre. Chaque épisode s'ouvre en voix off par l'extrait d'un poème d'Antonio Machado qui dit: Voyageur, tu n'as pas de chemin, construis ton chemin en marchant. Ce texte, dans la série, est présenté comme un oracle qui est énoncé au personnage et qui est censé contenir la clé d'une énigme. Mais ça indique aussi de façon très nette le fait qu'ils ne savent pas où ils vont et qu'ils vont passer leur temps à revenir en arrière. Il y a dans les mondes engloutis ce que je vais appeler des espaces miroirs. C'est-à-dire que même quand les personnages avancent, même quand ils découvrent de nouveaux lieux, ils vont se retrouver dans des lieux qui sont quasiment identiques à des lieux déjà visités. Donc dans l'ensemble de la série, il y a plusieurs moments où les héros vont découvrir des villes qui sont des reflets quasi identiques de la ville d'Arcadia et de ses habitants. Dans l'épisode Le Guérisseur d'étoiles, par exemple, ils sont projetés sans le savoir dans le futur. Ils débarquent sur Arca 3, qui est une station spatiale qui ressemble à la cité d'Arcadia, mais qui, ils le comprennent assez vite, est en fait une réplique dans l'avenir, qui est située dans une autre galaxie. La ville est déserte, mais les lieux sont absolument identiques à l'Arcadia de leur époque. Dans l'épisode Les Hommes Caméléons, les héros arrivent dans une strate, la strate de la Lune Douce, et ils sont capturés par un peuple de caméléons qui sont capables de prendre par mimétisme n'importe quelle apparence physique. Et finalement, ils reconnaissent en Spartacus l'un des leurs grâce à un fragment de poème dont ils ont la mémoire commune. Et on découvre alors l'apparence réelle des caméléons. Ils sont quasi identiques aux Arcadiens. Ils habitent une ville ou les vestiges d'une ville qui ressemble en tout point à la cité d'Arcadia. De même, dans un autre épisode, L'ombre de Terra, on découvre la cité de Terra, qui est une sorte de lointaine jumelle d'Arcadia, avec les mêmes décors, la même population. Alors à chaque fois, ces rencontres, c'est à la fois la réponse des scénaristes à une contrainte de réduction des coûts, parce que quand on arrive dans un nouveau lieu, ça coûte cher. Nouvel épisode, nouveau lieu, dessiner des nouveaux décors, créer des nouveaux personnages, etc., etc. Quand on invente une histoire qui se déroule dans une ville jumelle, on supprime plusieurs étapes intermédiaires. On réutilise des modèles existants, on va éventuellement seulement changer la mise en couleur des personnages. Donc là, voilà, ici, on voit les trois personnages qui sont les trois sages de la ville de Terra, qui sont absolument identiques aux sages de la cité d'Arcadia, simplement, voilà, les silhouettes sont les mêmes, on change juste les couleurs. Tout ça, ça crée des effets de reflets, de déjà-vu qui, dans le scénario, dans les mondes engloutis, sont intéressants, à mon sens, parce que ça, voilà, ça ancre l'idée d'une histoire qui se répète dans le temps et dans l'espace. On va avoir finalement des choses encore plus troublantes qui suggèrent l'idée d'une histoire cyclique. Cette histoire cyclique, elle est liée aussi à des problèmes de mémoire, c'est-à-dire que déjà, la cité d'Arcadia, quand on nous la présente au début, on nous explique qu'elle est quasiment hors du temps. C'est une cité qui s'est débarrassée de son passé, donc il n'y a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. Il n'y a ni passé ni avenir, on est vraiment dans une sorte de stase temporelle qui va être perturbée par la maladie du Chagma. À partir du moment où le Chagma menace d'exploser, là, il y a un problème. Il faut résoudre une situation. Il y a d'un seul coup plusieurs avenirs possibles qui se présentent. Et là, c'est dramatique. Les Arcadiens ne sont pas du tout habitués à ça. Ils vivaient dans une sorte de quotidien éternel où chaque journée était identique à la précédente. Ce problème de la mémoire, il affecte la plupart des personnages principaux. Ce sont seulement les deux héros, les deux enfants auxquels le spectateur est invité à s'identifier, Bob et Rebecca, qui... eux sont dépositaires d'une mémoire, ils portent en eux la mémoire de l'humanité. Et c'est grâce à eux à la fin que le Chagma pourra être sauvé, grâce à leur mémoire et à tout ce qu'ils ont sauvé en eux, même sans forcément en être conscients. En revanche, tous les autres personnages ont une forme d'amnésie qui leur est particulière. Alors on a Arcana, qui est un être artificiel, donc elle ne sait rien, elle doit tout apprendre. À côté, on a Spartacus, qui est un vagabond, qui lui ne sait pas grand-chose de son passé et qui, de toute façon, parle de ce qu'il sait avec énormément de réticence. Et puis on a Shag-Shag, qui est le vieux vaisseau arcadien, qui lui a la mémoire qui s'efface. Et puis enfin, on a Bic et Bac, qui sont les vieilles mascottes d'Arcadia, des animaux préhistoriques, qui eux ne vivent que dans l'instant, ne s'intéressent absolument pas au passé. Dans les sociétés que les héros vont découvrir au cours de leur voyage, un grand nombre des sociétés qu'ils vont rencontrer sont elles-mêmes sans passé historique et sans mémoire. Donc la première d'entre elles, c'est la cité d'Arcadia dont j'ai parlé, dont les fondateurs ont décrété l'oubli du passé pour permettre le bonheur. Alors le passé, il est consigné dans des vieux ordinateurs auxquels il est interdit d'accéder. On découvrira de toute façon, quand on y accède, que le contenu est en partie effacé. Et les conséquences de cet oubli et de l'impossibilité d'accéder à cette mémoire sont vraiment au cœur de l'intrigue. Ça se traduit avec une certaine cohérence dans la structure même de la série qui elle-même n'a pas de mémoire. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand des informations importantes sont délivrées au personnage, tout se passe comme si dans les épisodes suivants, il n'avait rien appris. On n'en tient pas compte. On les retrouvera éventuellement toutes à la fin, mais c'est tout. Alors, épisode après épisode, là j'arrive à la question de l'histoire cyclique. On découvre au centre de la Terre des personnages qui ont l'air d'être les alter-ego de grandes figures historiques et qui s'intègrent voilà, à une sorte de vision cyclique de l'histoire qui s'étend pas seulement à l'espace mais également au temps. Donc dans les mondes engloutis, on a des mêmes événements et des mêmes personnages qui existent en plusieurs lieux et à plusieurs époques. J'allais dire à plusieurs époques en même temps, si je puis dire. Donc sur ce motif, on va trouver plusieurs variations. On a d'abord les enfants terriens, Bob et Rebecca, qui, comme je le disais, ont mémoire d'événements qui sont survenus à la surface de la Terre et qui se produisent à nouveau, en parallèle, dans les mondes souterrains. Donc ils ont le souvenir des procès de l'Inquisition. Alors il y a un épisode consacré à Galilée où on rencontre un alter ego de Galilée qui vit la même chose que ce dont se souviennent les enfants de la Terre. Donc là, c'est assez troublant parce que c'est pas un voyage dans le temps, c'est un voyage dans l'espace qui permet de retrouver des événements identiques à ce qui s'est passé dans notre propre passé. De même, il y a également un épisode qui fait référence à la destruction des Indiens d'Amérique, et là aussi, les enfants se souviennent que c'est déjà arrivé. Alors, on a aussi des événements historiques qui se reproduisent, mais avec une distorsion. Par exemple, le premier empereur de Chine qui part en guerre à la tête de son armée d'argile. On a des personnages et des lieux qui portent des noms légèrement différents de ce qu'ils étaient dans le passé terrien historique. L'empereur moghol Akbar qui devient Abakar, ou les guerriers mongols qui deviennent les Mogok, et qui parfois même n'ont plus de nom du tout. Donc on a un épisode avec une ville qui ressemble à la Varsovie de l'époque de la guerre, avec son ghetto, l'occupation nazie, etc. Mais cette ville n'a pas de nom. Et puis on a aussi quelque chose qui est assez classique en science-fiction, on a des personnages historiques qui réussissent à accomplir leur destin avec l'aide apportée par les héros. Donc les héros qui empêchent l'assassinat d'Abakar ou celui du jeune pharaon Toutankhaton qui va devenir Toutankhamon. Et puis on a aussi des événements historiques voilà, qui ont eu lieu dans le passé de la surface de la Terre et dans le passé souterrain et qui se produisent à nouveau, quasiment une troisième fois. Alors là, on a un épisode surprenant qui fait référence à Démosthène et à l'affaire de la couronne. Je vais vous en montrer un extrait. Donc tout ça, ça tisse une sorte de réseau de lieux, de faits, de personnages qui se fait, qui se défait dans l'espace et dans le temps. Donc on a par exemple un épisode qui s'appelle Oncle Albert, dans lequel on croise donc, de nos jours, au centre de la Terre, un avatar d'Einstein, alors qui n'est pas nommé, mais dont on nous dit qu'il a inventé la formule E égale MC2. Mais le vieux Chak-Chak lui-même se rappelle dans son propre passé, sans doute plusieurs milliers auparavant, l'invention de la même formule E égale MC2 par le même Albert. Voilà. Et de la même façon, donc, on croise un Démosthène qui est presque identique à celui de notre antiquité à nous, l'antiquité terrienne, alors que les jeunes spectateurs n'ont pas forcément identifié, mais dont ils peuvent aller vérifier l'existence historique. Et là, en comprenant qui il est, le vieux Chak-Chak reconnaît en lui le Démosthène de sa propre antiquité au centre de la Terre. Et là, il dit « Mais comment c'est toi, Démosthène, l'orateur qui a parlé pour les Arcadiens contre l'Acédémone ?» Et donc Démosthène devient alors une sorte de figure éternelle qui vit à plusieurs époques et plusieurs lieux à la fois. Plusieurs époques à la fois, ça peut paraître paradoxal comme formulation, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Là, je vais vous montrer un très bref épisode de Démosthène, et puis après, je vous donnerai la parole si vous avez quelques questions.
Ça va être en ruine. Pourquoi il n'y a pas de son ? C'est une question.
Bon, alors, ça n'est pas grave. Ouais, je ne connais pas assez bien cet extrait pour vous faire les dialogues en direct. Enfin, c'est le moment où Shakshak reconnaît Démosthène et lui dit: « Mais alors, c'est toi, Démosthène. » Et on comprend que, voilà, des centaines ou des milliers d'années auparavant, il y a déjà eu un Démosthène sous terre qui ressemble un peu à celui de notre antiquité à nous, qui a prononcé les Philippiques, mais qui a également pris position pour défendre la cité d'Arcadia. Donc là, on comprend qu'on n'est pas dans notre passé à nous, tout à fait. Et finalement, on se retrouve avec trois Démosthènes, puisqu'il y a celui qu'on voit dans cet épisode, qui est un Démosthène qui vit au XXe siècle, sous terre. Il y a notre Démosthène à nous, de la surface de la Terre, d'il y a un peu plus de 2000 ans, et puis on a eu encore un autre sous terre avant. Bon, alors pour cet extrait, c'est pas grave, ça m'embête parce que pour les autres que j'avais choisis, il y avait des choses intéressantes. Tant pis. Ah, puis alors là, ça. Est-ce que il y a quelques questions dans la salle avant que je poursuive? Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez. Ah oui, alors. Il faudrait une vidéo qui tourne, ça c'est pas compliqué. Bon, je vais faire tourner une vidéo pour le cas où on pourrait avoir du son. Sait-on jamais. Alors, voyager dans le temps. Dans la première saison des Monts Engloutis, le but du voyage, c'est le retour au centre de la Terre sur la cité d'Arcadia. Et ce voyage depuis la surface jusqu'au centre de la Terre est en fait aussi un voyage dans le temps. Pourquoi? Dès le premier épisode, Bob et Rebecca affirment qu'ils peuvent s'embarquer à bord de Shag-Shag sans crainte que leurs parents s'inquiètent, car, nous disent-ils, au centre de la Terre, le temps géologique n'est pas le même que le nôtre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En gros, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'au centre de la Terre, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse que quand on est à la surface. Alors c'est une sorte de licence poétique d'abord qui les autorise à vivre toutes sortes d'aventures pendant des jours, des semaines et des mois et puis à rentrer chez eux comme si de rien n'était. Mais c'est intéressant aussi parce que ça nous explique, ça suggère une piste qui explique pourquoi il se passe autant de choses sous la Terre. C'est-à-dire que la cité d'Arcadia a été engloutie au cours d'un cataclysme, il y a déjà plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années. Mais enfin, quand on va suivre les personnages au centre de la Terre, on va découvrir qu'il s'est passé mais des choses extraordinaires, c'est-à-dire qu'il y a des mondes entiers qui ont évolué pendant des milliers d'années sous Terre depuis ce cataclysme. Et ça, c'est rendu possible par l'hypothèse que sous la Terre, le temps ne se déroule pas à la même vitesse.
Athènes et ma cité, je suis
Ah, voilà.
Démosthène, fils de
Super.
Démosthène.
Merci.
Comment? C'est toi, Démosthène, l'orateur qui a parlé pour les Arcadiens contre l'Acédémon?
Voilà, donc je zappe Démosthène, mais on pourra avoir tout à l'heure d'autres extraits. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Alors, dans le second épisode de la série, qui s'appelle Les Pilotis du démon, Shag-Shag est entraîné malgré lui par le courant d'une cascade intertemporelle. Alors les conséquences de ça sont assez incertaines. On se demande si on est voilà, si les personnages se demandent s'ils sont précipités à travers le temps. La question reste sans réponse. Le cours d'eau les entraîne vers un lagon où ils découvrent un village qui ressemble à une sorte de village préhistorique. Et là, vraiment, on suppose qu'ils ont été projetés dans une autre époque. Et l'une des lectures possibles qu'on peut faire de cette première saison, c'est une hypothèse que j'avais formulée et que je trouvais amusante, c'est que finalement chaque épisode, chaque strate qui va être traversée et la conséquence de ce voyage dans le temps. À partir du moment où on a descendu la cascade intertemporelle, tout peut se passer. Et pour enfin retourner sur Arcadia, il va falloir réussir à remonter cette cascade intertemporelle, ce qui nous est annoncé d'emblée comme impossible. Cela sera fait dans l'avant-dernier épisode de la série, Docteur Test, dont je parlerai tout à l'heure. Alors le thème du temps, il est présent de façon explicite dans un certain nombre d'épisodes, et en particulier dans un épisode très surprenant qui s'appelle Les prisonniers du temps perdu. Alors, dans Les prisonniers du temps perdu, on a un guide mystérieux qui s'appelle Arkshag, qui conduit les voyageurs sur une piste censée les amener jusqu'à Arcadia. Sur cette piste, on croise des fougères géantes, un squelette de dinosaures, finalement des dinosaures vivants, et on a l'impression qu'à mesure qu'on avance vers l'objectif qui est censé être la cité d'Arcadia. On remonte le temps, le danger s'accroît et le doute également. On finit par se demander si on est vraiment en route pour Arcadia. Mais cette espèce de dangereux voyage dans le temps, qui en fait est un piège, on va finir par le comprendre, ce voyage vers le temps perdu prend place dans un espace extrêmement restreint. En réalité, on est à l'intérieur d'un jardin miniature qui est enfermé dans un œil, qui est lui-même enfermé dans un masque de pierre que les enfants ont ramassé dans le désert. Et donc, enfermé... Ah oui, alors ça, c'est chiant, ça, c'est que... Enfermé, emprisonné dans cet œil, au bout du voyage vers le temps perdu, se trouvent depuis des temps et des temps les bannis de la première cité d'Arcadia. En quelque sorte, des dissidents politiques. Là, on a clairement dans cet épisode une référence au goulag. Des dissidents politiques qui ont été rejetés, puis qui ont été pourchassés et parqués dans un camp. Et ce camp, qui est le secret honteux du passé d'Arcadia, et qui en fait est la cause de tous les maux dans la cité d'Arcadia, qui nous est donné au départ comme une cité idéale où chacun se consacre au bonheur, mais ça n'a été possible que parce qu'on a envoyé dans des camps les gens qui n'étaient pas d'accord. Et ce camp, il est donc caché hors du temps, au bout du chemin par lequel on accède dans la clairière du jardin miniature situé dans l'œil du masque. Bon, libérer les prisonniers du temps perdu, ça sera l'enjeu de la deuxième saison des Monts Engloutis. On a un autre épisode très curieux aussi sur le temps qui s'appelle Le guérisseur d'étoiles. Alors là, pour échapper aux pirates qui les poursuivent, les héros sont obligés de pénétrer dans une strate mystérieuse qui s'appelle la strate de l'ailleurs et demain. Et ne pouvant pas s'échapper d'un espace clos, ils trouvent une sortie dans le temps. Alors c'est un épisode tout à fait à part parce que je pense que c'est le seul épisode dans lequel au lieu de voyager sous terre, là on voyage dans l'espace. On passe par une sorte de trou dimensionnel qui débouche dans un autre lieu et une fois passé ce trou noir, chaque se retrouve dans l'espace interstellaire, à proximité d'une station spatiale. Et on apprendra à la fin qu'en fait il se trouve également dans un lointain futur. Alors c'est de nouveau une fausse piste dont il va falloir s'extraire pour retrouver le chemin d'Arcadia, il faut revenir dans le présent. Mais c'est un voyage dans le futur qui n'est pas sans enseignement. Les héros vont apprendre que leur quête doit aboutir un jour. Arcanes et Spartacus apprennent, alors c'est dit de façon elliptique, mais c'est quand même dit qu'ils vont faire leur vie ensemble et avoir des enfants ensemble. On apprend aussi que dans un lointain avenir, le peuple d'Arcadia aura quitté le centre de la Terre pour aller s'installer ailleurs, quelque part dans l'espace. Alors comme dans toute bonne histoire de voyage dans le temps, évidemment, Arcana et Spartacus n'ont pas le droit de croiser leurs futurs descendants, ni d'apprendre trop de choses sur leur propre avenir. Alors, cette strate ailleurs et demain, ça évoque quelque chose pour tout le monde. Donc c'est une collection de science-fiction créée par Gérard Klein chez Robert Laffont. Alors pourquoi Ailleurs et Demain? Parce que cet épisode a été coécrit par Christian Grenier qui est à la fois un ami et un admirateur de Gérard Klein, et donc là il a glissé un clin d'œil à Gérard Klein dans cet épisode. Maintenant je vais parler de l'éternel retour, revenir sur ses pas. Donc je vous ai dit au départ, il y a cette idée que le centre de la Terre est entouré d'un lac circulaire dans lequel se déversent toutes les rivières souterraines, et quoi qu'ils fassent, les héros seront toujours ramenés malgré eux vers ce lac. On est donc très loin d'une odyssée dans laquelle les héros progressent vers une destination. C'est vraiment un récit cyclique, à l'intérieur duquel les héros sont enfermés, dans un espace circulaire qui apparemment est sans début ni fin. Cette idée, même si elle n'a pas été poussée jusqu'au bout dans la série, elle est présente dans la Bible, dans les dossiers de presse des Monts Engloutis, et voilà, ça souligne le fait que les héros vont sans cesse revenir sans le vouloir là où ils sont déjà allés. Cette impossibilité d'avancer, le retour permanent sur ses pas, il est récurrent dans les Monts Engloutis, il est déjà très présent dans Ulysse 31, la précédente série écrite par Nina Vollmark. Les héros, voilà, sont des voyageurs qui sont censés accomplir une quête, mais la règle du statu quo impose que voilà, dans chaque épisode, chaque tentative d'aller de l'avant se solde par un échec. C'est obligatoire, il faut rater à chaque fois. À trois reprises dans Les Mondes Engloutis, l'intrigue va évoquer une porte légendaire qu'il faut découvrir et qu'il faut traverser pour pouvoir continuer. Et dans les trois épisodes concernés, à chaque fois, la porte ne sera finalement même pas passée. À la fin de la deuxième saison, les héros cherchent à nouveau la porte de l'aurore qui est censée les conduire à Arcadia. Et bon, cette fois, ils réussissent enfin à la franchir, mais c'est parce que la série se termine. Mais de manière générale, voilà. On a une avancée qui est toujours, enfin, on a un mouvement qui est toujours contrarié, une intrigue toujours contrariée et qui fait qu'on revient toujours à un point de départ. Et le scénario va s'emparer de cette contrainte du retour en arrière pour en faire l'élément central de plusieurs épisodes. Et je vais vous en citer trois exemples remarquables, dont deux que je vais développer et dont je vous montrerai des extraits. On a par exemple un épisode qui s'appelle « La guerre interstrate », dans lequel Bob et Rebecca suivent un chemin qui semble les ramener chez eux à la surface de la Terre. Alors là, de même, là c'est tout à fait intéressant parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'occasion de réutiliser des décors qu'on a vus dans le premier épisode. On les voit qui sortent de la grotte, qui arrivent sur la plage du tout début, et puis ils aperçoivent un village qui a l'air d'être leur village. Puis ils pénètrent dans ce village, et puis ils s'avancent, et puis là, d'un seul coup, ils se disent « il y a quelque chose qui ne va pas, la place du village, elle n'est pas au même endroit que chez nous ». Ils finissent par comprendre qu'ils sont dans une sorte de village jumeau du leur, et qu'en fait, ils ne sont pas à la surface de la Terre, ils sont toujours sous la Terre, mais dans un lieu qui a l'air identique, mais pas tout à fait, et puis là, ça tourne au cauchemar, des machines arrivent, détruisent tout, et c'est un épisode tout à fait terrifiant. Dans la série, les personnages vont aussi, à un moment donné, être contraints à revivre leur propre passé. On a un épisode qui s'appelle « Docteur Test », dans lequel, à la suite d'une intervention extérieure, qui est alors là quasiment divine, les héros revivent des scènes qu'ils ont déjà vécues, et pire que ça, ils ont conscience de les revivre. Alors, le Docteur Test, c'est l'avant-dernier épisode de la première saison. C'est un épisode qui a connu une genèse assez complexe. Il y a eu plusieurs versions successives très différentes les unes des autres. Au départ, c'est de nouveau le co-scénariste Christian Grenier qui lance une idée. Il veut s'inspirer du mythe de Faust. Donc, il écrit un premier jet qui s'appelle « Vrai ou Faust ». Il en développe deux versions différentes en parallèle, une version comique et une version sérieuse. Alors, dans la version comique, ça se passe dans un fast-food. Le docteur Faust s'appelle le docteur Toast. Sa bien-aimée Marguerite s'appelle Mange Frite. Et puis, il développe en parallèle une version plus sérieuse où le personnage s'appelle le professeur Eichstein. Bon, c'est la version sérieuse qui est retenue par Nina Vollmark. Par glissement, le dénommé Toast de la version comique va devenir le docteur Test. Et dans une version du script, il est précisé en note que le vieux docteur Test doit ressembler au Michel Simon du film La beauté du diable de René Clair, qui lui-même est tiré du Faust de Goethe. Alors au départ, cet épisode, le récit qui est prévu doit s'intégrer à la deuxième saison de la série. Sauf qu'entre-temps, il y a une contrainte qui est arrivée. La production de la première saison se termine. La chaîne qui va diffuser la série... la diffusion n'a pas encore commencé, mais les retours sont tellement bons que la chaîne passe commande d'une deuxième saison avant même que la première ait commencé à être diffusée. Et là, tout s'emballe. C'est-à-dire que le studio France Animation qui produit la série s'aperçoit que le calendrier va être très serré, qu'en termes de budget, ça va être très difficile aussi. Il faut très rapidement terminer la première saison pour attaquer la deuxième. Et donc là, arrive une contrainte assez effarante. On explique à Christian Grenier qu'il va falloir écrire un épisode qu'on pourra fabriquer très rapidement et à faible coût et qui soit constitué le plus possible d'extraits piochés à volonté dans les 24 épisodes précédents, avec la contrainte que tout ça constitue un récit quand même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de faire un pot pourri où les personnages se souviennent des trucs qu'ils ont vécu, pas du tout. On prend des scènes qui existent déjà, on les réagence comme on veut, et ça doit raconter une histoire. Alors l'épisode pot pourri, ça c'est un classique du récit télévisuel. Dans les séries, on a régulièrement, y compris dans la série en prise de vue réelle, des épisodes où au cours d'une soirée les personnages partagent leurs souvenirs. Bon, on a ça régulièrement dans Friends par exemple. Ça permet ça permet très rapidement de construire un épisode qui va rien coûter du tout. En plus, on fait plaisir au spectateur en lui montrant des bouts de choses qu'il a vu dans le passé. On est gentil avec le spectateur qui n'a pas vu tous les épisodes en lui montrant des choses qu'éventuellement il a ratées. Voilà. Et dans Les Mondes Engloutis, il y a en deuxième saison un épisode qui s'appelle Sacré Pirate qui constitue sur ce principe où les personnages se remémorent leurs différentes rencontres avec les pirates. Bon, ça n'a d'ailleurs absolument, du coup, à mon avis, aucun intérêt. Dans Docteur Test, c'est complètement différent parce que là, le retour en arrière devient le moteur de l'intrigue. Alors, à la suite d'une expérience ratée, 30 ans plus tôt, le docteur Test a fait disparaître sa fiancée, Philomène. Et dans son laboratoire, alors qu'il cherche à la retrouver, ou plutôt à la faire revenir, il aperçoit Arcana, qu'il confond avec Philomène. En voulant la ramener à lui, il fait voyager malgré eux Shag-Shag et ses passagers dans leur passé. Et donc il force les héros à revivre des fragments de leurs aventures passées. Et les héros ont conscience d'être ainsi déplacés à travers l'espace et le temps par une force invisible. Donc la contrainte de production est respectée. Sur 20 minutes de récit, les deux tiers, un peu plus des deux tiers, sont à l'image des plans et des séquences entières tirées de 7 épisodes différents de la première saison. Les dialogues et les musiques, eux, sont changés pour correspondre à la nouvelle histoire qui est racontée. Certains plans sont même passés à l'envers. Et c'est ainsi que le vaisseau Shag-Shag peut enfin remonter la cascade intertemporelle qu'il avait descendue malgré lui au deuxième épisode. Donc il a suffi de 6 minutes d'animation seulement pour fabriquer cet épisode, qui est une espèce d'ovni en fait. Alors il reste quasiment rien de Goethe, hein, à part le secret de l'éternelle jeunesse, dont on apprend que Test l'a découvert sans vraiment l'utiliser. Et puis il y a également un clin d'œil à un moment donné, le docteur Test est traité d'apprenti sorcier par l'un des personnages, référence qui fonctionne à deux niveaux puisque l'auteur de Faust est également celui du poème L'apprenti sorcier. Donc c'est une espèce de patchwork qui parvient quand même à raconter une double histoire, à la fois celle du vieux savant fou d'amour qui attend sans grand espoir de retrouver sa fiancée à 30 années de distance, et celle des héros qui doivent affronter de nouveau des épreuves déjà traversées et revivre même certains de leurs échecs. Donc ils affrontent de nouveau l'empereur Qin qui était mort et ils échouent de nouveau à lui prendre le plan du Shagma. Toutes ces épreuves qui sont indispensables en quelque sorte pour que les personnages soient enfin autorisés à avancer vers le dernier épisode qui est attendu. Est-ce qu'il y a des questions ? Courir le risque de revenir en arrière, de devoir tout recommencer, c'est le thème central d'un épisode qui s'appelle Zara ou l'éternel retour. Alors, avant de s'appeler ainsi, cet épisode comme titre de travail s'est notamment appelé Zarathustra ou les funambules de la porte de l'enfer. Donc, c'était une référence explicite au Zarathustra de Nietzsche. Le personnage principal s'appelait Zarathustra, puis il est renommé Zara, un peu pour simplifier, puis dans la logique de la série, qui est que les personnages historiques, mythiques, littéraires sont réappropriés par la série et souvent un petit peu renommés. Il reste de très nombreuses allusions à Nietzsche dans cet épisode. Sur une place publique, on a un prophète, Zara, à la fois inquiétant et ridicule, qui harangue la foule. Alors il est accompagné d'un aigle et d'un serpent, et il cherche celui qui osera monter sur le fil. Situation qui fait écho au prologue de Zarathustra de Nietzsche. Alors Zara, dont le synopsis nous apprend qu'il s'est enrhumé après un trop long séjour dans sa grotte, il éternue régulièrement en faisant « Ah, Nietzsche !» Alors fasciné par les paroles du vieillard, Bob accepte de monter sur le fil, le fou. C'est-à-dire donc il accepte de marcher sur un fil qui est tendu entre deux tours qui traverse une place publique. Il s'avance et il chute devant un parterre de spectateurs. Et là, Zara s'écrie « Bravo mon garçon, tu as été parfait ». Une remarque assez surprenante devant un échec, qui suggère que justement cet échec n'a absolument aucune importance, qu'il est toujours possible de tout recommencer, et c'est le thème de cet épisode. Ce recommencement que Zara appelle l'éternel retour est présenté plutôt comme une menace. Donc Zara annonce à Bob « Tu devras franchir la porte de l'enfer avant le soleil, sinon tu subiras l'éternel retour. Oui, le retour à ton point de départ, alors tu devras tout recommencer éternellement. » Je vais vous montrer un extrait.
Oh, ah, 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 ah garçon. Tu as été parfait.
Parfait, parfait. J'aurais pu me tuer, oui.
Allez, allez, l'or du cœur de la terre n'attend plus que toi. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Mon aigle va te conduire jusqu'aux îles fortunées. Là, mon serpent te guidera jusqu'au sommet de la montagne de feu. Mais tu devras y arriver seul. Absolument seul. Et tu devras franchir la porte de l'enfer avant le soleil. Sinon, tu subiras l'éternel retour. Oui, le retour à ton point de départ. Alors tu devras tout recommencer. Éternellement.
C'est encore Zara, ce vieux fou.
Il est drôle, ce vieillard.
Ne t'y trompe pas, c'est un prophète illuminé, un philosophe fanatique.
Je vais appeler Bob.
Non, pas encore. Cet homme est dangereux. Il est toujours accompagné d'un serpent et d'un aigle.
Alors, à la fin de l'épisode, Bob atteint la porte de l'enfer. Mais ses compagnons Spartacus et Arcana l'ont suivi et aidé au mépris de la règle qui avait été énoncée par Zara, qui lui imposait de réussir seul. L'aigle et le serpent s'unissent alors, et au terme d'une métamorphose, ils deviennent une hydre à deux têtes, gardienne de la porte de l'enfer. Alors, c'est une séquence qui fait écho à un autre épisode, Gog et Magog, en fin de première saison, où Arcana et Spartacus affrontaient déjà la même hydre devant une porte identique, qui était présentée comme la porte de Gog et Magog, censée protéger les strates contre le déferlement des forces de guerre, mais réputée également porte légendaire conduisant à Arcadia, donc à la fois porte de l'enfer et porte du paradis. Donc dans Gog et Magog, les héros faisaient finalement demi-tour, renonçant à ouvrir la porte. Ici, en revanche, Bob est persuadé qu'il doit passer la porte pour trouver le second Orichalc. Les héros affrontent l'hydre, mais Arcana est mortellement blessée. Alors cette fois, la catastrophe a eu lieu et semble irréversible. Donc c'est là l'une des règles que j'ai énoncées au début est transgressée. Un personnage principal meurt. Alors, comment la série peut-elle continuer? Arcana peut-elle revenir? La seule issue, c'est d'attendre ce que Zara a annoncé comme l'éternel retour, c'est-à-dire attendre la fin de l'épisode, puisque Zara l'a promis, tout pourra recommencer. De fait, le soleil se couche. Bob est projeté dans une sorte de trou noir et puis il reprend ses esprits dans une séquence identique à la séquence d'ouverture. Place publique, harangue de Zara, fil sur lequel il faut marcher, etc. Sauf que cette fois, il s'enfuit et c'est la fin de l'épisode. Donc la magie de l'éternel retour a permis aux héros, pourtant en fâcheuse posture, de bénéficier de la règle du statu quo qui dit qu'ils ne peuvent pas mourir. Je vais vous montrer un deuxième extrait.
Avant le soleil,
tout seul,
hors du cœur de la terre,
l'éternel retour.
Elle est morte.
Non.
Bob, reviens. Ne franchis surtout pas cette porte. Notre seule chance à présent, c'est l'éternel retour.
Non, Spartacus.
L'éternel retour.
Mais que s'est-il passé? Ah, je me souviens. L'éternel retour.
Quoi? Personne ne s'avance? Il n'y a que des lâches ici, hein? Que des niais? Ah, oh, Aldich!
Bob, en fait, voilà.
Arcana? Toi, vivante?
Évidemment, quelle question.
Voilà, donc là, on a une conclusion d'épisode qui est doublement déceptive. C'est-à-dire que non seulement Bob a échoué, mais il sera même jamais dit au spectateur si la fameuse porte renfermait réellement quelque chose ou si ça n'était qu'un leurre. Donc, sur le plan symbolique, ça s'inscrit dans une tendance assez forte des mondes engloutis à laisser une part au mystère, à l'inexpliqué ou même à l'ésotérisme. Et dans cette tendance, vraiment, s'inscrit le texte de cet épisode qui est très lourdement chargé en symboles qui ne seront jamais explicités. L'aigle et le serpent, les îles fortunées, la montagne de feu, la porte de l'enfer, le coucher du soleil, autant de codes dont la clé ne sera jamais livrée. Je vais terminer en évoquant un autre épisode assez surprenant qui s'appelle L'échiquier des mondes. Alors là, c'est un épisode qui est quasiment la métaphore de toute la série, puisqu'il y est dit explicitement que les héros sont projetés dans un jeu dont ils sont les pièces et où ils sont invités à conjuguer leurs talents pour être confrontés à des créatures de toutes les strates, nous est-il dit. Et malgré leurs efforts, le jeu est sous contrôle d'une autorité supérieure qui va de toute façon les faire échouer, car le jeu est truqué. Et là, pour moi, c'est vraiment la métaphore du récit cadre de la série, c'est-à-dire qu'on est prisonnier d'une structure sérielle et donc condamné à ne pas progresser. Et d'ailleurs, la construction même de cet épisode souligne cette emprise, l'emprise de la sérialité sur le feuilletonesque, c'est-à-dire qu'au lieu de présenter un récit linéaire avec une intrigue qui progresse du début vers une fin, c'est déjà un épisode qui est lui-même coupé en deux volets indépendants, qui présentent chacun une variation sur le même schéma. Dans la première moitié, on a les pirates qui sont aspirés par un tourbillon et projetés sur un échiquier géant. Trois juges apparaissent et leur expliquent la règle du jeu. Un tirage au sort truqué désigne celui qui joue en premier. Les juges ricanent, indiquant aux spectateurs leur partialité. Et les pirates, qui ne connaissent absolument pas les règles du jeu d'échecs, perdent la partie et disparaissent. Et puis dans la deuxième moitié de l'épisode, les héros eux-mêmes sont attirés par un faux signal de détresse, aspirés par le tourbillon, projetés sur l'échiquier géant. C'est déroulé exactement de la même façon. On a le même accueil par les trois juges, la même énonciation des règles, le même tirage au sort truqué, le même ricanement in petto. Sauf que contrairement aux pirates, les héros établissent un plan qui doit leur assurer la victoire. Mais l'adversaire triche. Le roi prend la reine adverse alors qu'elle est sous la protection de son roi. Et donc les héros perdent quand même la partie en dépit de tous leurs efforts. Là, les juges reconnaissent qu'il y a eu irrégularité. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent non pas aux personnages de les libérer, mais il leur propose de jouer une nouvelle partie. Alors à ce moment-là, les héros refusent, l'échiquier disparaît, et l'épisode est terminé. Donc ce jeu d'échecs auquel on joue sans pouvoir gagner est un peu à l'image de chaque épisode de la série. C'est-à-dire que pour pouvoir l'emporter, les héros doivent refuser de jouer une nouvelle partie. C'est-à-dire refuser de vivre un nouvel épisode et faire disparaître l'échiquier, c'est-à-dire faire disparaître la série elle-même. Et donc dans le diptyque final de la série, constatant son échec, Spartacus décide d'enfreindre l'une des règles qui a été énoncée au premier épisode de cette saison. Dans cet épisode inaugural, on apprend qu'il y a un lieu qui est interdit par excellence, c'est la fameuse réserve des prisonniers du temps perdu. Il est interdit d'y entrer. Finalement, Spartacus décide d'enfreindre cette loi. Et c'est cette infraction qui permet la révélation finale et de conclure la série. L'échiquier des mondes, donc le deuxième épisode de cette seconde saison, en quelque sorte délivre sous une forme codée un résumé de toutes les situations récurrentes que les héros vont rencontrer. Et également, donc nouveaux lieux, espoirs, tentatives, échecs, et également leur dit de manière un peu codée, quelle est la manière dont, par laquelle ils pourront à la fin briser le cercle de l'échec systématique et de leurs principaux opposants. Pour briser le cercle, il faut enfreindre la règle, entrer dans la réserve, et là la série peut enfin se terminer. Je vais vous montrer un bref extrait de l'échiquier des mondes, et puis on aura pratiquement fini.
Bienvenue sur l'échiquier des mondes.
Je connais cette voix.
Moi, je sais. Mais Bob, souviens-toi, nous avions été jugés par
des inquisiteurs. Ce n'est pas possible. Que ferait-il ici?
Vous êtes ici pour affronter au cours d'une partie d'échecs des créatures de toutes les strates. Partagez-vous les rôles. Vous avez droit à autant de pièces que le camp adverse.
Mais c'est Arkshag, le gardien des prisonniers du temps perdu. Pourquoi est-il ici?
Quand donc en aurons-nous fini avec lui?
Allons, placez-vous comme vous voulez. Vous prenez en cours une partie qui dure depuis des siècles. Jusqu'ici, le roi Arkshag a toujours été vainqueur.
Ce garde churme un roi.
Mais si vous gagnez la partie, c'est Orichal que sera à vous.
Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce qu'il y a un micro éventuellement?
Oui, je ne crois pas t'avoir entendu parler de Michel Jury. Il me semble que dans tout ce que tu as présenté sur les mondes engloutis, il me semble que en fait, la structure du temps dont tu parles a pour récit prototypique le temps incertain. Et bon, voilà, je...
C'est une affirmation intéressante, je n'avais jamais pensé à ce rapprochement. C'est intéressant de citer le nom de Michel Jury parce que Michel Jury a failli écrire des épisodes des mondes engloutis. Michel Jury était un grand ami de Christian Grenier et à un moment donné, Christian Grenier a contacté certains de ses amis et auteurs de science-fiction, notamment Joël Vintrebert qui, elle, a écrit 3 épisodes. Et Michel Jury pour lui demander un coup de main. Michel Jury a produit quelques synopsis très courts, hein, de 10-20 lignes chacun. L'un de ces synopsis a été jugé intéressant et retenu, mais c'est pas Michel Jury qui a écrit l'épisode qui en découle. Donc il reste quand même très 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 peu de Jury dans l'épisode définitif. Les synopsis de Jury, en fait, bien que bref dans leur rédaction, impliquaient des épisodes absolument farmineux en termes de rebondissements. Il y avait beaucoup 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 trop d'événements. C'était totalement infaisable. Après le rapport au temps incertain, oui, ça mériterait d'être travaillé. Il y a peut-être un article à écrire là-dessus, cher
Oui,
Simon.
J'ai l'impression que ce sont des lecteurs de Jury qui ont fait tout ça.
Bonjour. Depuis le début de votre conférence, je me pose la question, est-ce que toutes les décisions sur le temps qui ont été prises par l'auteur de la série, par la créatrice de la série, sont uniquement dues à des contraintes de production, ou est-ce que son idée s'inclut dans l'histoire d'un point de vue narratologique? Est-ce que c'est une décision narratologique d'avoir demandé, d'avoir imposé au scénariste une contrainte de retour à zéro, ou est-ce que c'est une décision de production?
Les deux vont ensemble. D'abord, Nina Vollmark, qui est créatrice de la série et qui signe ou co-signe tous les épisodes, elle est aussi productrice. Donc les contraintes de production, elle les connaît en amont. Elle les intègre et quand elle commence à écrire la série, elle sait très bien comment ça fonctionne. Elle sait que cette série, dont il est décidé assez tôt qu'elle sera produite en France, elle sait qu'il y aura des difficultés à la fois de coûts, de délais, d'équipe, parce que pour faire une série comme Les Monts Engloutis, il a fallu former des nouveaux dessinateurs. C'est-à-dire qu'il y avait presque pas assez de monde en France à faire du dessin animé à l'époque pour pouvoir faire une série comme celle-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Michel Gauthier, le réalisateur qui enseignait au Gobelin, est allé voir certains de ses étudiants les plus prometteurs en leur disant: bon, ça vous intéresse d'avoir du boulot pour 2-3 ans parce que j'ai besoin de gens pour faire un dessin animé. Donc la moyenne d'âge de l'équipe était extrêmement jeune. Ce qui explique aussi certaines maladresses techniques dans l'animation. Et voilà. Donc La réponse à votre question, c'est que tout ça se fait ensemble. Nina Bollmark sait qu'il y aura des difficultés. Elle travaille main dans la main avec son réalisateur qui lui dit « bon, voilà, il y aura des cas où certains épisodes qui ont été écrits et développés seront mis de côté parce que ça impliquait trop de nouveaux décors, trop de nouveaux personnages, et qu'en termes de temps et de coûts, ça ne serait pas possible. Donc on privilégie d'autres choses, on privilégie des retours dans des lieux déjà connus, par exemple. Voilà. Mais l'idée qui consiste à faire... tourner en rond les personnages, à avoir cette espèce de récit amnésique où on revient sans cesse sur ses pas et au point de départ, c'est quelque chose qui est présent en amont, et comme je disais, qui est présent aussi en fait dans Ulysse 31 que Nina Bollmark a coécrit quelques années avant. Donc ça fait partie des histoires qu'elle aime raconter. Donc là, tout s'est conjugué d'une certaine manière, d'une belle façon.
En fait, pour être plus clair, est-ce qu'il y a un but narratologique au retour permanent ? Est-ce qu'il y a un but de construction d'histoire ?
Il va falloir qu'on en reste là. Je ne suis pas sûr de savoir répondre à cette question que je ne comprends pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que quand on est... Non, mais je reviens à ce que je disais au tout début. Quand on est dans une série en épisode indépendant, de toute façon, le récit n'a pas le droit de progresser. À la fin, il faut forcément... dans le meilleur des cas, les personnages vont aller aider des gens dans un monde qu'ils vont traverser, et puis ensuite ils s'en vont. Et dans le pire des cas, ils cherchent un but qu'ils n'atteindront pas.
Pour les amateurs des mondes engloutis, je signale que Hervé ne l'a peut-être pas signalé, mais qu'il y a un site très bien fait qui existe à propos des mondes engloutis.
Ouais, non, ce site est complètement obsolète, et si j'avais deux vies, je le referais entièrement.
Il y a quand même beaucoup d'informations dessus.
Merci.